Quatrième partie. Chapitre 1. Le surlendemain, vers 10 heures, Monique descendait la ruelle des Étours. Ce terme du vieux français est resté, avec beaucoup d'autres archaïsmes, dans notre langue romande, et l'on dit à l'eau-neuve « j'ai des Étours » pour dire « j'ai le vertige ». La ruelle qui porte ce nom significatif est la plus escarpée de la ville. Son pavé raboteux la rend impraticable à tout véhicule, et si les habitants de la haute ville la descendent parfois, ils ne la remontent guère, surtout pendant les heures chaudes du jour. Monique avait depuis quelque temps des raisons particulières pour l'éviter. Elle craignait d'y faire la rencontre de M. Colombe, qui visitait journellement ses filleuls. L'atelier du relieur se trouvait au rez-de-chaussée d'une des maisons de la ruelle et s'ouvrait directement sur le trottoir. Mais aujourd'hui, elle était pressée et avait pris le plus court. Une de ses amies, qui était un talent professionnel, désirait lui montrer de fort belles faïences qu'elle venait de peindre et que leur acheteur devait faire prendre le jour même. Elle avait invité d'autres amateurs à cette petite exposition. Sans trop se l'avouer, Monique espérait vaguement y rencontrer Rémy d'Orbe. C'était presque à son intention qu'elle avait choisi ce costume de promenade, d'une étoffe souple couleur beige, drapée en longs plis et garnie d'une large dentelle de laine, et ce chapeau dont les légers marabouts bleu pâle caressaient ses cheveux. Pourtant, Monique était triste. Elle entrevoyait dans un avenir très prochain des complications pénibles, des conflits qui lui faisaient peur. Elle se défendrait. Elle y était toujours plus résolue, mais l'angoisse de cette lutte inégale lui serrait déjà le cœur. Le moindre dissentiment avec ses amis, avec des indifférents même, lui était une souffrance. Où trouverait-elle la force d'affronter les reproches, les apostrophes impérieuses de Mademoiselle des Anges et la froideur glaciale de sa mère? Et pour qui lutterait-elle ainsi? Pour moi-même, pour ma liberté. Oui, sans doute, mais ma liberté ne m'est-elle pas devenue plus chère depuis quelques jours? Tout en s'interrogeant ainsi, elle descendait lentement la ruelle, posant avec précaution la fine pointe de sa bottine sur le pavé, tantôt glissant, tantôt rugueux. Comme elle passait devant la maison du relieur, une femme se précipita hors de l'atelier. « Mademoiselle, mademoiselle, c'est le bon Dieu qui vous envoie! Entrez, entrez vite, dites-moi ce qu'il faut faire! Joseph est sorti, je suis toute seule, j'en ai déjà eu 4, mais jamais je n'ai vu ça !»« Vu quoi? Qu'y a-t-il ? » demanda Monique en traversant l'atelier pour entrer dans la petite chambre attenante. « Ça !» répondit la femme en étendant la main vers le berceau. Deux bébés y étaient couchés côte à côte. L'un criait à perdre haleine, mais l'autre ne faisait entendre qu'un bruit étranglé. Tout raide, les lèvres bleues, les yeux tournés, il agitait ses pauvres petits bras dans cet affreux mouvement spasmodique qui tord les articulations et n'a rien d'un mouvement humain. Monique, quoique absolument inexpérimentée, se pencha sur le berceau et saisit l'enfant, dont elle appuya la tête sur son épaule pour la tenir élevée. « J'en ai déjà eu 4 et pas un qui se soit imaginé d'avoir des convulsions !» gémissait la mère. « Celui-ci n'a rien fait comme les autres depuis le premier jour. »« Il vous faut un docteur, » dit Monique. « Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on fait en pareil cas. »« Peut-être un bain chaud, qu'en pensez-vous? Envoyez quelqu'un chez le docteur Lamier, courez demander conseil à une voisine. » Elle s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit de sa main restée libre. « Mais vous allez abîmer votre belle robe !» fit la mère avec cette préoccupation du détail matériel qu'ont les pauvres gens. « Est-ce que je songe à cela ?» dit Monique. « Allez vite et amenez une voisine !» La tête de l'enfant roulait lourdement sur son bras. Elle s'assit pour l'appuyer plus commodément contre elle et surveilla d'un œil effrayé les contractions étranges de ce petit visage. Des taches livides marbraient les joues, la teinte des lèvres pâlissait et les yeux semblaient noyés dans un fluide bleuâtre. Tout à coup, une sorte de frémissement passa dans les membres, la tête se renversa entièrement, les paupières s'abaissèrent. C'est la fin de la crise, pensa Monique. Je sens son petit bras se détendre. Au même instant, la porte s'ouvrit et M. Colombe parut sur le seuil. Depuis l'avant-veille, son irritation contre Monique n'avait fait que croître, en même temps que son désir de contraindre cette jeune fille rebelle à lui rendre les armes. Quand il l'aperçut dans cet humble intérieur, tenant l'enfant sur ses genoux, il crut à une victoire aussi réjouissante qu'inattendue. Elle attendait sa visite, apparemment, c'était de cette manière qu'elle lui offrait sa capitulation. Mais ses yeux myopes reconnurent bientôt quelque chose d'étrange dans l'attitude de Monique, dans l'immobilité de l'enfant. « Ne le réveillez pas, » dit la jeune fille à voix basse. « Il vient d'avoir une affreuse convulsion. Il commence seulement à se calmer. » M. Colombe, inquiet, se pencha sur le bébé, posa un doigt sur sa tempe, puis sur son cœur, approcha son oreille de la bouche pâlie. Sans dire un mot à Monique, il lui enleva doucement son fardeau et le porta sur le grand lit blanc qui occupait le fond de la chambre. « Il ne dort pas, » dit-il en revenant vers la jeune fille. « Il est mort, le pauvre petit. »«
Mort, là, sur mes genoux » murmura-t-elle avec un grand frisson. « Mon Dieu !»
Elle se détourna.
« La mère devait venir !»
essaya-t-elle de prononcer, mais un grand sanglot lui coupa la voix et elle éclata en pleurs nerveux. « Comme vous voilà ébranlé !» fit M. Colombe avec un léger tremblement dans son timbre toujours si égal. « Cette émotion est fort naturelle. Je devine tous vos sentiments, ma chère demoiselle. Mais permettez-moi que je vous dise... »«
Ah, laissez-moi !»
fit Monique en passant à la hâte son mouchoir sur ses yeux. Pouvait-on bien employer cette expression niaise de « chère demoiselle » en un tel moment? La mère rentrait avec une voisine. Quand elle aperçut l'enfant couché sur son oreiller, elle courut à lui, le prit dans ses bras et, tout à coup, poussa un grand cri. Monique se boucha les oreilles et sortit en courant. Ébranlée comme elle l'était, elle ne songea plus à descendre chez son amie. Mais prenant un petit passage voûté, elle sortit de la ruelle, traversa un pont jeté sur le ravin qui coupe en deux la ville et se trouva bientôt sur la terrasse de la cathédrale. Le lac avait une teinte de plomb rayée de traînées blanches. Les mouettes criaient si fort qu'on les entendait même à cette distance. Rien de plus lugubre, de plus sauvage que cette clameur d'affamés. Monique, s'accoudant au mur de la terrasse, sentit une indicible tristesse l'envahir. Elle voyait ses fortes ailes blanches, aiguës comme un éclair, battre l'eau en tournoyant, puis s'approcher des gros rochers gris qui avoisinent le port, et finalement s'y poser en grand nombre, tandis que les cris redoublaient. On eût dit un congrès de désespérés. Monique se détourna brusquement. L'autrice, le ciel voilé, ses oiseaux au plumage de deuil qui se lamentaient, tout ravivait en elle l'impression affreuse qu'elle venait de recevoir. Pour la première fois, elle avait vu mourir. La pensée que cette petite âme s'était envolée de ses mains, que ce dernier souffle, inaperçu, avait effleuré le sien, lui semblait mystérieuse et terrible. Elle quitta le bord de la terrasse et vint s'asseoir dans le cloître, où la vue était bornée comme l'existence des vieux moines qu'il avait construite autrefois et dont les tombes formaient aujourd'hui le chemin des vivants. Laissant errer ses yeux sur les antiques sculptures, sur les corniches ébréchées, dont quelques débris jonchaient l'herbe au pied des colonnettes, Monique s'abandonna à une profonde rêverie. Toutes ses inquiétudes, ses agitations, tous ses désirs lui apparaissaient vains et frivoles devant cette vision, la mort qui lui était apparue tout à coup. À quoi bon courir après les espérances quand chaque pas vous rapproche de ce seuil redoutable qu'il faudra franchir et sur lequel on abandonne tout? À quoi bon lutter quand un seul coup de cette main froide peut vous arracher le prix de la lutte? Une vague terreur saisissait la jeune fille. Elle sentait qu'en cette minute de lassitude, de découragement, elle serait capable de toutes les concessions. Elle se leva et fit quelques pas. Dans sa disposition d'esprit, elle eût été heureuse de voir l'un des vieux moines se dresser devant elle pour lui reprocher sa lâcheté. Oui, c'était de lâcheté qu'elle s'accusait.
on voulait lui arracher son bien le plus précieux, la liberté de suivre son cœur, et elle avait à peine le courage de le défendre. Monique était faite d'impression plus que de fermeté. Chez ces natures, la victoire dépend parfois moins de la volonté que des circonstances extérieures. Le moment psychologique y joue un grand rôle. Sous l'influence de cette impression morbide que la mort est la seule réalité et que tout le reste importe peu, Monique aurait-elle soutenu une bataille rangée ? Épouvantée de sa faiblesse, n'osant rentrer chez elle de peur d'y trouver la lutte, elle quitta lentement la terrasse et descendit chez un fleuriste auquel elle commanda une guirlande de muguets et de violettes pour le petit cercueil. Le jardinier, qui la connaissait, voulut lui témoigner sa sympathie. C'était votre filleule, mademoiselle ? Non, répondit Monique, qui rougit subitement. Ah ! Fit l'homme un peu déconcerté, on me l'avait dit. On s'est trompé. Il paraît que l'autre petit a été pris du même mal. Quand cela ? S'écria Monique. Il n'y a guère que 10 minutes. J'ai vu le père courir chez le docteur. Vous savez, il est rare qu'un jumeau prospère sans l'autre. Faudra-t-il envoyer 2 guirlandes dans le cas où... Monique lui jeta un regard qui l'empêcha de poursuivre. « Ce n'est pas pour avancer sa mort, au moins, murmura-t-il, confus de son manque de tact. Je lui corde bien de vivre à ce pauvre petit. » Mais déjà, Monique était sortie, émue elle aussi, de sentiments dont elle était épouvantée. Si les 2 enfants étaient repris, ils n'auraient pas besoin de marraine, voilà ce qu'elle s'était dit, involontairement, avec une impression de soulagement qui n'avait duré qu'un éclair, dont elle était à peine responsable, mais qui lui causait une indicible horreur. Aurait-elle, même pendant une fraction de seconde, souhaité la mort de ces pauvres petits êtres ? Bien qu'elle fût brisée d'émotion et de fatigue, elle se dirigea de nouveau vers la ruelle des Étours. Au moment d'y arriver, elle rencontra le docteur Lamier qui venait de rejoindre sa voiture au bas de la ruelle. « Comment va-t-il » demanda Monique, haletante. « Chère mademoiselle, » dit le docteur, qui était un homme du monde, très perspicace et tenu par sa femme au courant de la chronique, « vous voilà dans un état d'agitation qui me peine. Permettez-moi de faire quelques pas avec vous. » Il emmena d'un air d'autorité courtoise dans une direction opposée à la ruelle. « Ne montez pas là-haut, dit-il, c'est plein de commères. D'ailleurs, monsieur Colombier, il suffira aux éventualités. J'ai appris de lui que vous étiez là au moment de la crise qui a emporté le premier. » « Il est mort sur mes genoux !» murmura Monique avec le frisson qui la secouait tout entière chaque fois que ce souvenir revenait. « Oh, mon Dieu, ses yeux renversés! Mais dites-moi comment va le second! Docteur, sauvez-le, je vous en supplie !» Le docteur la regarda avec surprise, cherchait à démêler la vraie cause de cette angoisse. Avant de répondre, il fit un signe à son cocher. « Laissez-moi vous ramener chez vous, » dit-il à Monique en la conduisant à sa voiture. Il y monta à côté d'elle et reprit, après un moment de silence, « Il y a encore de l'espoir pour cet enfant. » À son tour, Monique devina que le cas était grave. Mais comme elle avait retrouvé quelque empire sur elle-même, elle questionna le docteur avec un calme apparent. Elle lui demanda en quoi elle pourrait se rendre utile et si la mère était pourvue de tout le nécessaire. Cependant, quand elle descendit de voiture, elle était si pâle, elle avait l'air si brisée, que le docteur la considéra avec une sollicitude plus que professionnelle. « Vous aurez une bonne migraine, » dit-il. « Fermez les volets et couchez-vous pendant 1 ou 2 heures. Voilà mon ordonnance. » Comme elle disparaissait dans la maison et que le docteur allait prendre les rênes des mains de son cocher, car il aimait à conduire lui-même, surtout dans les rues tortueuses de la ville haute où son habileté brillait à chaque contour, il aperçut Rémy d'Orbe qui s'avançait rapidement vers lui. Prenant à peine le temps de saluer le docteur dans les formes un peu compliquées de la politesse de l'eau neuve, « Mademoiselle Odèle n'est pas malade, j'espère, » dit-il avec anxiété. « Ah, bonjour, cher monsieur, enchanté de vous voir. Comment vous portez-vous » dit le docteur taquin de nature. « Si vous n'avez rien de mieux à faire, montez ici, nous causerons. J'ai quelqu'un à voir à l'autre bout de la ville. »
Mademoiselle Odel, malade, vous pensez que la compagnie d'un médecin suffit à produire des symptômes morbides ?
Elle m'a semblé très pâle, j'espère m'être trompée, dit Rémy, dont le regard inquiet ne quittait pas la maison de Mademoiselle des Anges.
Il monta sur le siège, tandis que le cocher s'installait au fond de la vieille calèche démodée qui avait fidèlement servi trois générations de docteurs. Monsieur Lamier constata tranquillement, comme s'il établissait un diagnostic, que Rémy d'Orbe paraissait s'intéresser vivement à la santé de Mademoiselle Odel, et il se promit de n'en rien dire à sa femme. Mais il méditait un autre entretien. Depuis la réception de cette fameuse lettre anonyme que l'intermédiaire obligeant de Madame Lamier avait communiquée à Toulonneuve, le docteur s'était promis qu'à la première occasion, il avertirait Rémy et même qu'il l'interrogerait, afin de pouvoir, cas échéant, le défendre en éclaircissant ce qui n'était peut-être qu'un bizarre quiproquo.
Pour ce qui concerne Mademoiselle Odel, rassurez-vous, commença-t-il, d'un air que Rémy trouva trop indifférent sur un tel sujet. Elle est entrée tout à l'heure chez de pauvres gens et a vu mourir un bébé, ce qui lui a frappé l'imagination.
La sensibilité de Mademoiselle Odel n'est pas affaire d'imagination, répliqua Rémy avec quelque chaleur.
C'est possible, les jeunes filles sont un mystère au-dessus de ma portée.
Mais parlons de vous, monsieur, poursuivit le docteur sans autre préambule. Si j'avais pu vous harponner un instant, l'autre jour à Chanvert, vous auriez subi un interrogatoire.
Merci, je sors d'en prendre, répondit Rémy, qui se rappela aussitôt Maître Chauvette.
Vraiment, on vous a fait des questions ?
Fort étrange.
Et vous avez remarqué, n'est-ce pas, un certain changement dans les dispositions générales à votre égard ?
Donnez-moi la clé de cette énigme, dit Rémy brusquement. Je n'en ai parlé encore à âmes qui vivent, mais je pressens, je ne sais quoi, un complot mystérieux.
Et vous n'avez aucun reproche à vous faire, dit le docteur avec une certaine solennité.
Qui oserait se prétendre irréprochable, répondit Rémy. À force de fouiller ma conscience, je l'ai mise en chair vive, elle me semble douloureuse sur tous les points. Mais je cherche vainement en quoi j'ai pu démériter de l'Auneuve.
Vous avez un ennemi quelque part, fit le docteur lentement, en tenant ses yeux fixés sur la belle figure ouverte du jeune homme. Êtes-vous sûr de n'avoir lésé personne, de n'avoir excité aucune rancune masculine ou féminine ?
Vous êtes plus mystérieux qu'un sphinx, cher docteur, abrégez mon supplice.
Des lettres anonymes qui vous visent directement ont été adressées à plusieurs personnes.
De l'Auneuve ?
De l'Auneuve. On les met en garde contre vous, on fait des allusions à je ne sais quel méfait. Il paraît que vous avez été un grand criminel.
Sous quelle latitude ?
C'est ce que votre accusateur néglige de dire, aussi les conjectures vont-elles leur train.
Et vous avez reçu vous-même une de ces lettres ?
Oui, attendez, je dois la voir sur moi. Je ne souhaitais qu'une occasion de vous la montrer, poursuivit le docteur gravement en ouvrant son portefeuille. J'ai à cœur de vous voir vous disculper le plus tôt possible.
Et vous vous imaginez que j'en prendrai la peine ? S'écria Rémy quand, après avoir parcouru la lettre, il laissa voir la rougeur indignée qui lui montait au visage.
Je m'abaisserai à relever de pareilles inepties.
Tenez, ce n'est pas pour moi que je rougis, c'est pour vous, c'est pour ce vénérable cercle de gobe-mouches qui s'appelle la Société de l'Auneuve. Et c'est là-dessus qu'on se permet de me juger, fit-il avec un geste méprisant, comme pour jeter la lettre dans la boue de la rue, mais il se retint.
Pardon, j'oubliais que ce bijou littéraire était votre propriété personnelle, il serait fâcheux de l'endommager.
Très bien, jeune homme, dit le docteur avec son flegme habituel. J'aime à vous voir cette ironie et ce noble courroux. Mais songez qu'avec votre stature d'homme antédiluvien et sur ce siège élevé, vous risquez d'attirer l'attention si vous gesticulez de la sorte.
Rémy se calma tout en souriant avec dédain.
Et il en circule de ses compositions ?
4 ou 5 à ma connaissance.
J'y vois clair maintenant. Je comprends l'air effaré de mes respectables concitoyens. Je suis classé sans appel. J'ai commis un de ces forfaits que la loi n'atteint pas, mais que les honnêtes gens réprouvent avec horreur. Il ne me reste qu'à prendre mon billet pour l'Amérique ou à me faire évangéliste par expiation après un aveu général sur la place publique.
Parlons raison, dit le docteur. Il vous reste à chercher votre ennemi anonyme et puis à vous disculper d'une manière éclatante. L'honneur l'attend de vous.
Mademoiselle des Anges, c'est elle ? Demanda Rémy.
Probablement, c'est même, je crois, pour cette raison qu'elle vous a honoré l'autre jour d'une faveur si particulière. Cet emploi qu'on vous a offert sur son injonction expresse était une sorte de réparation d'honneur. Du reste, pour vous épargner d'autres questions, je vous dirai en résumé que chacun le sait, chacun et même chacune. Voilà en deux mots la situation. Vous entrevoyez, je présume, la nécessité d'en sortir.
J'en sortirai, dit le jeune homme, et l'honneur rougira de honte.
Ainsi soit-il, dit le docteur en arrêtant ses deux paisibles trotteurs. Je descends ici. Voulez-vous m'attendre ?
Merci, j'ai affaire en ville. Tenez-vous beaucoup à ce document ?
Demanda Rémy en secouant la lettre du bout des doigts avec dégoût.
Pas le moins du monde. Gardez-la, elle pourra vous être utile comme pièce de conviction.
Et il lui serra la main en le quittant.
J'ai enfoncé le bistouri un peu brusquement, n'est-ce pas ? Mais les plus courtes opérations sont les meilleures.
Allez, mon cher ami, et puisse l'auteur de cette charmante plaisanterie ne pas se trouver trop tôt sur votre chemin, car vous en feriez, je crois, de la charpie.